Bonjour à toutes et à tous. Notre invité du jour se nomme Henri Follonier. Aujourd'hui septuagénaire, il réside à Ventôle, sur les Hauts-de-Sierre. Durant de nombreuses années, il a travaillé comme éducateur dans diverses institutions valaisannes. Il lui arrivait également d'aller à la rencontre de jeunes en difficulté dans les rues de Sion. Avec son entourage, il a aussi joué le rôle de famille d'accueil pour un certain nombre de jeunes en mal de repère. À cette époque, Henri Follonier se définissait lui-même comme un éducateur à cheveux longs, car en parallèle à ses activités professionnelles, il a été l'un des organisateurs, dans les années 1970, du mythique festival en plein air de Sapin-Haut. À la retraite depuis quelques années, Henri continue de vivre très intensément. Dans sa grande maison, un peu à l'écart du village de Ventôle, il reçoit régulièrement des musiciens en résidence. En outre, les terrains qui jouxtent sa demeure sont exploités en permaculture, permettant ainsi, par exemple, de proposer aux enfants de la région une initiation au monde agricole. Enfin, ce grand passionné investit beaucoup d'énergie dans un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Un film fiction dont il est auteur, ainsi que co-réalisateur, avec des professionnels valaisans et des musiciens de tous horizons. Henri Follonier nous parle de tout cela, et de bien d'autres choses encore, dans cette interview réalisée durant le printemps 2021. Sachez encore que la musique qui accompagne ce reportage est signée Jackie Laguerre, un grand ami de notre invité du jour. Henri Follonier, on va d'abord parler de votre enfance. En deux mots, comment ça s'est passé? Où est-ce que vous avez vécu? Dans quel cadre?
Alors moi, il faut comprendre que je suis issu de mes parents, de mon père comme de ma mère, d'Évolène. De la famille Follonier, d'une famille Gaudin du côté de ma mère. Les familles Follonier et Gaudin, c'est des gens qui à l'époque, pour situer, mon père était de 1905, ma mère de 1909, ont été... Toute cette génération qui sont partis s'exporter en France pour travailler dans la campagne, dans la restauration et tout. Et d'ailleurs, pas tout à fait par hasard, mais mon père et ma mère se sont rencontrés pour la première fois à Paris, alors qu'ils avaient 4 ans de différence et puis 2 km de distance où ils habitaient. Voilà, c'est comme ça.
Donc vous avez passé votre enfance à Évolène?
Non. Ce qu'il y a eu, c'est que je suis né à Sion, où mes parents tenaient un café. C'était le café de la brasserie valaisanne. Dans la brasserie même, on fait la bière. Et de la première année jusqu'à mes 12 ans, en 1962, on habitait là. Voilà. Je me suis habitué à avoir une clientèle d'ouvriers, de personnes âgées qui étaient dans le home à proximité. Donc la vie sociale de bistrot, ouverture et tout, je l'ai bien connue.
Henri Follonier, à l'école secondaire, vous avez fait la connaissance de Jackie Laguerre, le chanteur valaisan bien connu. Ensemble, vous avez fondé un petit groupe de musique. Parlez-nous de cette expérience-là. Où est-ce que vous avez joué? Quel type de musique vous faisiez?
C'était un peu la mode à l'époque. À part le sport, il n'y avait pas beaucoup de choses. La musique était naissante. On avait la musique yéyé, les modernes qui apparaissaient. C'était quelque chose de très, très nouveau. Alors, quand on a attrapé le même virus, lui, Jackie Laguerre, Eddie Savio et moi, on s'est retrouvés sur les mêmes bancs d'école. Il y avait une fête à l'école à préparer. On a proposé de faire notre premier concert, là, voilà, à trio, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous parler de lui, le décrire un petit peu, Jackie Laguerre?
On était un peu les deux fous, parce qu'on... Au lieu de parler des filles, on parlait des sons de guitare, c'est une passion. Alors, en plus, je dois dire quand même que la musique, elle n'était pas indépendante. Parce que jouer de la guitare, c'était quelque chose. Ça exerçait un charme, un attrait pour les filles. Ça s'est vérifié.
Ah, quand même.
En tout cas, pour Jackie, plus que pour moi, je consolais les filles parce qu'ils changeaient assez souvent.
En l'espace de quelques mois, alors que vous n'aviez pas encore 20 ans, vous avez perdu vos deux parents. Comment avez-vous vécu cela et en quoi cela a influencé votre vie?
Là, j'étais en apprentissage, j'étais au milieu de mon apprentissage quand ça s'est arrivé, quoi. Faut dire que ça a été deux décès rapprochés sur un mois. Finalement, quand j'ai perdu ma mère, j'ai pas eu le temps de ressortir des souffrances personnelles. Avec ma soeur, on était protecteurs de mon papa, on faisait du souci. Donc, on était plus dans l'encadrement, le soutien de mon père que nous, avec ça nous préoccupait parce qu'il souffrait à tel point qu'il s'est pas suicidé, mais sa santé s'est dégradée, elle n'était pas très bonne et un mois plus tard, il est parti. Ça a été pour un soulagement de voir qu'il n'allait pas souffrir éternellement. Donc, on s'est décentré de nous-mêmes pour bien prendre ça. Ensuite, ça a été une formidable énergie que j'ai ressentie parce que je les ai accueillis en moi, je crois, j'ai fait un processus de deuil. Qui n'en était pas, c'est plutôt un processus de métamorphose. Je dis, maintenant il fallait de l'avant, et puis j'ai continué. Ça m'a plutôt boosté, voilà, plutôt qu'aplati. Voilà, je crois que j'ai essayé d'aller dans mon mode de vie, mais en étant fidèle à l'énergie transmise par mes parents, les valeurs transmises et tout, que j'ai encore. Je suis encore fier d'avoir hérité ça d'eux.
Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez fait un apprentissage chez Alu Suisse à Sierre en tant que polymécanicien. Comment s'est passée cette expérience pour vous? Comment vous l'avez vécue?
Ça a été difficile pour Jackie et pour moi. Jackie, il a rompu le. Donc, avec Jackie Laguerre, pour rester ensemble, on a choisi le même apprentissage. Et puis, on est resté ensemble. On passait notre temps à composer de la musique dans des recoins de l'usine, des moments et tout. Cette passion, disons que c'était un peu très militaire comme organisation dedans. On souffrait. Par contre, le métier, moi qui étais jusqu'au bout, je remercie d'avoir appris ce métier parce que finalement. C'est un métier qui nous apprend à apprendre. C'est un métier qui a des méthodes de travail, une méthodologie applicable dans tous les domaines. Ça m'a permis ensuite de m'approprier les capacités d'apprendre rapidement tous les savoir-faire du métier et d'être devenu ici un bâtisseur. J'ai fait ma maison, vraiment tous les corps de métier, pratiquement à 90% seul, j'ai pratiqué. Voilà, c'est un métier qui m'a beaucoup servi. Hein. Voilà.
Henri Follonier, vous avez terminé votre apprentissage de polymécanicien, puis vous vous êtes tourné vers une autre profession, celle d'éducateur. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de changer de profession?
Mais il y a eu un événement marquant pour moi dans ma jeunesse, c'était que j'ai été approché lors d'une hospitalisation pas trop grave par un père franciscain qui m'a dit, mais viens découvrir, nous on a les jeunesses franciscaines. Alors moi, j'étais pas très chaud, j'avais perdu dans un enchaînement sur un mois mon père et ma mère, j'étais un peu dans l'incompréhension, la révolte de la vie par rapport à Dieu, le traditionnalisme religieux. Et en fait, c'était une période chamboulante pour moi, ça. Parce que moi, j'avais un avenir tout préparé pour devenir héritier avec mon cousin, chef d'entreprise, et qui n'est pas des moindres. Et mon approche franciscaine, ça a été une découverte, vraiment, on peut dire, du Christ révolutionnaire. Quelqu'un qui est toujours, qu'on peut pas, on peut pas mettre en cartonné à quelque part et tout, c'est un être vivant parmi les hommes, parmi les plus faibles, les plus pauvres, voilà, c'est pas le conformisme de la pratique, je critique pas les pratiquants, mais je me suis trouvé plongé dans cet esprit-là. Et c'est là que justement, je venais de terminer mon apprentissage, j'ai commencé à faire ma préformation, début de formation comme éducateur en 1971 à Saint-Raphaël.
Alors, on va juste préciser, Saint-Raphaël, c'est une institution qui existe toujours à
Oui,
Champlain et qui
oui.
s'occupe de quelle
Bah,
population?
alors. Ça se joue, on peut dire une population à partir de 8 ans d'enfants plus jeunes jusqu'à l'âge de la pré-apprentissage, jusqu'à 14 ans, plus ou
Donc,
moins
des
là.
enfants qui ont des difficultés
Alors, c'est des enfants qui ont été,
familiales.
oui, peut-être appauvris par rapport à la famille, une famille stable, une famille présente, avec quelques difficultés des fois de comportement puis d'apprentissage. Donc, Saint-Raphaël offrait des classes spécialisées, des maîtres spécialisés pour une formation. Qui suit le rythme de l'enfant. Voilà. Donc.
Quel souvenir vous avez de cette première expérience avec des jeunes enfants en difficulté que vous avez dû accompagner?
Oui.
Est-ce que ça a été très difficile pour vous ou au contraire c'était une belle découverte de pouvoir les accompagner?
Non, pour moi, ça n'a jamais été difficile parce que J'ai toujours essayé de faire alliance avec toutes les personnes, toutes les populations que j'ai. C'est-à-dire, voilà, si tu es là, il y a peut-être une difficulté, un problème. Si tu supportes mal le placement et tout, tu vas essayer d'être désobéissant, de rentrer en conflit avec moi. Ça sert à rien. Moi, j'ai un mandat, et tout. Par contre, au lieu d'être subissant et puis te révolter, tu peux être choisissant. On choisit, c'est toi. Si toi tu es constructif avec toi, je peux le faire d'une manière. Mais moi j'ai le pouvoir de t'imposer des choses. Mais on fait alliance. On fait alliance parce que, effectivement, tu sais, je comprends que tu es mal, mais tu dois faire avec ce qu'il y a là. Puis tu n'auras pas le choix. Sauf si tu fais alliance avec moi, on choisit, puis on va vers là. Moi je suis à ton aide. Tu as des difficultés de comportement, des difficultés scolaires, tu as peut-être des souffrances familiales et tout. Donc j'ai appris ce que c'était l'alliance avec un jeune. Pas l'autorité. En ayant toujours l'autorité en réserve, en lui rappelant que j'avais l'autorité, mais quand il y avait un problème, quand il faisait une bêtise, il dit, mais qu'est-ce que tu proposes comme réparation? Quand il y avait des problèmes dans le groupe, je convoquais le groupe, posais le problème, puis je dis, mais non, je vous laisse seul, vous décidez une mesure qui n'est pas punitive, mais une réparative. Voilà, ça a été peut-être la première étape de dire, d'avoir une approche éducative, responsabilisante et constructive.
Vous êtes également à l'origine de la création de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies. Pourquoi est-ce que vous avez accompli cette démarche? Est-ce que vous avez l'impression que c'était un besoin réel pour les jeunes?
Bah, cette démarche, elle n'a pas été issue d'une volonté personnelle et tout, mais simplement dans le cercle des musiciens qu'on était de l'époque, avec Jackie et tout ça, on avait un jeune qui avait fait le collège, qui s'appelait Boris Rizer, et lui avait fait un constat, c'est qu'au collège, il y avait de la consommation de cannabis, qu'il y avait des trucs qui se passaient et tout, et il a fait un rapport finalement, pour démontrer que ces jeunes, ils étaient quand même livrés à certains risques, dangers, qu'ils avaient manqué d'informations, de soutien, que souvent c'était des jeunes fragilisés sur le plan personnel et familial, qui avaient tendance à abuser de la drogue, comme c'est le cas avec l'alcool. Si on est dans un mal-être familial, émotionnel et tout, le produit, on est vite victime du produit. Et lui, il a pris cette initiative, moi j'étais pas dans le coup quand il a pris tout de suite, et il a été voir le directeur de la Ligue anti-alcoolique valaisanne, parce que le gros problème c'est l'alcool en Valais, qui s'appelait Sylvain Salama. Et sous la base de ce rapport et d'un problème qui a survécu à monter avec l'arrestation de jeunes, où la presse largement disait la drogue chez nous, comment ça se fait, il a compris qu'il fallait faire quelque chose. À la même époque, on avait l'abbé Steiner à Brigue qui avait pris l'initiative aussi d'accompagner des jeunes par rapport à cette problématique qui était mal connue. Et puis où les solutions d'accompagnement n'étaient pas encore créées. Et il y a eu en même temps à monter un employé de la LVT, non, de la Ligue valaisanne anti-alcoolique, Jean Daniel Barban, qui était le grand directeur pendant une période, qui s'occupait du côté alcool, qui était dépassé par une situation où il y avait 40 jeunes de montée qui devaient passer au tribunal pour consommation. La population était effrayée, alors ils ont fait appel à notre bureau qu'on avait pu ouvrir à Sion. Le bureau, c'était un appartement. C'est-à-dire que Sylvain Salma, avec le comité de la Ligue anti-alcoolique, avait pu débloquer un montant pour que pendant 6 mois, Boris et moi, on ait un salaire pour venir travailler, gérer ce lieu. Ce lieu, cet appartement, qui est un centre d'accueil protégé pour discuter avec les jeunes. Où c'était par la communication et tout. Après, on a développé le souci d'information, de prévention, mais il fallait faire un peu quelque chose tout de suite. Alors, c'est un petit peu dans l'urgence, dans la découverte, on était des vrais pionniers. On était des vrais pionniers parce qu'on ne perpétuait pas quelque chose, on découvrait des mal-être, des gens, d'un côté la souffrance, les risques, mais en même temps le harcèlement policier, etc. Et heureusement, on a réussi à avoir des accords avec la police de protection qu'ils n'interviennent pas pour arrêter des jeunes quand ils viennent chez nous. Ces types que ça pouvait les dissuader de venir, que la police utilise notre appartement pour observer qui vient là, etc. et tout, puis leur sauter dessus. Voilà, et ça a été respecté.
Vous dites vous-même que vous avez été éducateur de rue alors que ce mot n'existait pas vraiment.
Oui.
Parlez-nous de cette activité.
Quel était notre mandat? C'était d'une part d'avoir à des heures une permanence ouverte pour recevoir des jeunes, pour discuter. Avec un coin pour écouter de la musique et tout, avec un bureau d'organisation, avec un coin un peu discret pour être dans des discussions protégées, moins bruyantes et tout. Voilà. Mais en même temps, il fallait ne pas que attendre que les jeunes viennent vers nous, il fallait les pêcher là où ils allaient. Donc on allait dans les milieux à risque. À Sion, il y avait par exemple sous la gare ce qu'on appelle sous-sol, là, et ce truc, maintenant qui est un restaurant grec et tout, un petit machin de manger sur le pouce, c'était le lieu de trafic, là, des trucs là, à haut risque, parce qu'il y avait tout. Il y avait les pires drogues, les. Donc on allait s'immerger, on allait là-dedans, mais sans se cacher, on n'était pas des taupes, hein, de la police et tout, avec une protection de la police qui viennent jamais quand on est là avec des jeunes dans les lieux. Parce que ça faussait, ça pourrait créer des suspicions, des peurs que la police nous utilise pour. Voilà.
Henri Follonnier, vous êtes établi vers l'âge de 24 ans, je crois, à Yvolène, c'est bien
Oui.
ça. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'aller habiter là-haut?
Ah ben moi, j'étais héritier d'un appartement dans le vieux village d'Yvolène, et en même temps, on faisait de la musique. Alors, deux choses sont combinées. C'est qu'on aimait aller, toute l'équipe qu'on était là-haut, les amis, et pour finir, on a déménagé. Certains travaillaient même à l'État du Valais, dans différents trucs. Tous les jours, on faisait l'aller-retour. On a loué un chalet avec les mêmes équipes qui étaient avec Jacques Laguerre, ou le groupe Try, et on faisait de la musique là. Et moi, j'avais le besoin aussi, par rapport au centre de contact qu'on avait créé, de pouvoir sortir des jeunes, parce qu'il n'y avait pas seulement la drogue le problème. Pourquoi le jeune était drogué? Parce qu'à la maison, on avait un père alcoolique qui tapait la fille, la mère et des trucs comme ça. Il fallait l'isoler du milieu pathologique qui le prédisposait à chercher une fuite dans un produit ou un autre. Au lieu que ce soit le produit traditionnel de l'alcool, ça devenait la drogue. Donc il fallait le sortir de deux milieux dangereux, la famille, le premier milieu, le meilleur risque de la consommation un peu naïve et aveugle des jeunes, et les prendre à Yvolène, et ben, ils vivaient là-haut avec nous. Et là, moi, je me suis d'abord été en couple sans enfant, mais ce n'était pas un centre avec plusieurs jeunes, c'était un ou deux à la fois qui cohabitaient avec nous, que je réussissais à occuper. Donc on était un petit peu le centre de décantation, de mise en attente, des trucs. Bon, on n'avait pas des vrais toxicomanes là. Hein.
Donc on va juste préciser, donc en plus de votre travail en institution, dans une institution, vous avez accueilli
Ouais.
des jeunes chez
Ouais.
vous, c'est
Mais il faut
ça, hein?
savoir que je n'avais pas des contrats fixes en institution. Ben, j'étais devenu progressivement, surtout bon, à la FOVAM, hein. Ensuite au centre ORIF avec mon très regretté Georgie Lamont. Donc, moi, j'étais un peu l'homme de main à disposition des institutions quand ils avaient besoin d'un éducateur ou d'un maître socio-professionnel. Henri, tu peux venir pour 10 jours, tu peux venir 2 semaines. Donc, je travaillais irrégulièrement dans ce secteur. À part ça, à Evolène, j'accueillais des jeunes, mais j'avais appris le métier d'une cousine de mon père, Marie Métraillé, et travaillé aussi avec l'autre Marie Métraillé d'Evolène, qui tous les deux étaient tisserandes. J'ai appris le métier de tisserande. Donc, on vivait d'artisanat, de travail de remplacement. L'accueil des jeunes, on les prenait comme ça, on n'était pas forcément. On a rarement été rémunéré pour le travail, quoi. Un jour, j'ai essayé de calculer si dans ma vie, si je facturais le travail gratuit que j'ai fait social ici, c'est plus de 250 000 francs, quoi. Voilà. C'est mon esprit franciscain. Pour moi, il n'y a pas de limite. La vie, c'est un tout. Là où on peut être utile, on aime, on aide, on soutient, et puis c'est tout, voilà.
Est-ce que vous pourriez me dire à peu près combien de jeunes vous avez accueillis au total?
Donc, comme famille d'accueil,
Oui.
bon, là, il faut dire, il y a pour des jeunes pour qui ça a été très précieux, où j'ai eu un rôle de papa, je pense une quinzaine à un moment donné. Puis après, de ceux qui faisaient qui pouvaient sortir de prison, venir s'occuper, travailler ici et tout, ben, je pense que j'ai dû avoir une cinquantaine de jeunes qui ont passé chez moi pendant ces années. Voilà.
Et puis, entre votre travail, vos propres enfants, parce que vous avez eu 3 enfants au total,
Oui.
hein, est-ce que parfois vous vous êtes senti débordé, est-ce que, ou est-ce que, voire surmené?
Oui, en permanence, par la première de mes filles, parce que un taureau, ascendant taureau avec un caractère à cœur en or, mais une chiante, encore maintenant, elle le reconnaît, parce qu'elle l'est encore parfois, pour des trucs, elle était épuisante et tout. Donc c'était J'ai éduqué la même chose que mon fils, que mon autre fille et tout. Voilà. Alors je dirais que le problème, c'était plus le caractère d'un enfant. Puis que des fois, je dirais aux parents, n'allez pas vous culpabiliser. Hein. Vous éduquez de la même manière, et ça peut donner un ange ou un diable. Et ne vous prenez pas la tête, c'est pas possible. C'est des caractères, des personnalités ou des descendances qui ressurgissent. Voilà.
Ma question précisément, c'était, est-ce que parfois vous êtes senti débordé, vous êtes dit, mais est-ce que j'ai bien fait de prendre d'autres jeunes en plus de mes propres enfants?
Non, mais
Vous
c'était
avez.
très bien. Non, au contraire. C'est quand j'avais que les trois que la première m'embêtait le plus. C'était plus. Parce qu'elle rentrait dans une dynamique. Je ne m'adressais pas à elle, je m'adressais à l'ensemble, à d'autres. Puis les autres, oui, elle m'accordait confiance. Oui, papa, etc. Alors la grande qui aimait bien foutre, elle était débordée, elle n'avait plus qu'à suivre les autres. Elle s'excluait. C'était pas dans le rapport direct, c'était à travers le groupe. Donc ça m'a été plus facile de gérer ma première que j'adore, que j'aime très fort. Que quand on était à trois, voilà, parce qu'elle faisait des crises d'autorité, de rapport, de compétition avec moi ou avec tout le monde.
Vers l'âge de 28 ans, vous avez déménagé ici où nous sommes maintenant à Ventone. Pourquoi ce changement?
Moi, je travaillais au centre Orif et je cherchais à acheter une propriété, une maison, quelque chose qui me permette d'être avec mes rêves, un truc un peu isolé, tranquille, la nature. Et puis, un peu par hasard, au centre Orif, il y avait un collaborateur qui connaissait le propriétaire de la maison ici qui avait été partiellement transformée. Il m'a mis en contact, puis j'ai découvert ce lieu, j'ai dit, mais ça me va très bien,
Vous avez eu
voilà.
le coup de cœur.
Le coup de cœur, ouais. Mais personne n'aurait pris un truc comme ça, pas d'eau, pas d'électricité, presque pas de route, c'était le. Là, ouais, c'est carrément le Moyen-Âge, on est reparti du Moyen-Âge ici, l'habitat.
Voici la deuxième partie de ce reportage consacré à Henri Follonier. Tout d'abord, quelques mots sur Sapin-Haut. Ce lieu-dit est situé sur les hauts de la commune de Saxon, à environ 900 mètres d'altitude. Il fut le théâtre, entre 1971 et 1976, d'un mythique festival open air, sans doute le premier du genre en Suisse. On y assistait, d'une part, à des concerts de pop folk et d'autre part à des conférences débats, brassant essentiellement des idées contestataires ou avant-gardistes. Henri Follonier a été, plusieurs années durant, l'une des chevilles ouvrières de ce festival. Je lui ai d'abord demandé quelle avait été l'idée de départ de cet événement. Voici sa réponse.
Alors, au départ, il n'y a pas une idée, c'était simplement un groupe d'amis, de jeunes qui aimaient un style de musique et tout, qui aimaient être dans la nature, la tête sous les étoiles et la liberté, pas de voisins, pas déranger les jeux de voisins, et puis trouver une liberté de vivre un peu comme on voulait, les soirées, les nuits. Et là, il y a un qui a été en contact avec le responsable de la colonie de Sapin-Haut, c'était un pasteur, qui nous a volontiers accordé le droit d'utiliser les WC et de prendre de l'électricité. Donc, ils ont fait. Moi, j'étais pas la première année, la toute première. J'ai été la
D'accord.
deux. Et ils ont fait simplement une fête. Je sais pas, ça peut être rassemblé 50, 80 personnes, très petits.
Sur
Voilà.
plusieurs soirs ou sur un soir?
Un week-end, je pense. J'imagine que ça devait être le vendredi, le samedi,
La
comme
première
ça.
année,
Donc, il n'y avait pas l'idée d'un festival.
oui.
Seulement. Comme il y avait peu de choses pour répondre à ses envies culturelles, l'année suivante, il y avait beaucoup plus de monde qui est venu là. La deuxième année, ils ont, au même titre qu'un festival de fanfare, ils ont demandé une autorisation à la commune officielle, en disant on fait un festival, voilà, et tout, on prend toutes les mesures. Ils ont appelé Festival de Sapin-Haut le premier. C'était même plus tout à fait la même équipe, il y avait une relaise spontanée. Moi, il faut savoir que c'est à cette période-là, en 72, avec Boris Rizer, qui était étudiant au collège, qui avait fait un rapport sur les risques, le nombre de consommateurs de cannabis au collège. Il avait approché Sylvain Salamin, qui était directeur de la Ligue valaisanne anti-alcoolique. Et c'est là ils ont décidé de faire quelque chose avec un budget limité, où j'étais invité pour avoir fait la sélection d'éducateurs. À travailler avec Boris pour faire un lieu d'accueil à Sion. Donc en même temps, on faisait ce travail social de prévention, d'accueil des jeunes, et en même temps, on était aussi dans la mode et tout, musicale, culturelle, et on était les mêmes à reprendre à ce moment-là le troisième festival en 1974, qui a été un festival qui a aussi donné une place large à une forme de contestation, mais je veux dire, ça a été vu comme de la contestation par les officiels, la politique valaisanne. C'était alternatif, c'est-à-dire, il faut chercher. Yvette Créton était dans, pour le mouvement de libération de la femme. On a eu Franz Weber pour la Tupor. On a réuni.
Si j'entends bien, c'était vu. Ça a été vu un peu dans la société comme quelque chose de très subversif.
Tout à fait, tout à fait. Et c'était un peu le mouvement de contre-culture. Mais nous, notre vocation, c'était avant tout festif, c'était la musique, le culturel.
Est-ce que tout s'est bien passé, votre
Alors, il y a eu des difficultés. Ça a tellement fait peur à l'établissement valaisan, le bien à droite et tout, qu'ils avaient décidé, on a appris qu'il y aurait une cab. Qu'il n'y aurait plus de festival. Donc, en 75, au lieu de refaire le festival, on s'est mis en pause.
Question que je vous pose déjà, vous êtes vraiment mis en pause parce que vous n'avez pas reçu les autorisations?
On savait qu'ils avaient décidé de ne pas nous donner l'autorisation en 1975.
D'accord.
Et
d'accord.
Comme on n'a pas réalisé le festival, là, il y a Rosla qui a fait le premier festival, qui est le festival de Lyon maintenant, sur la plaine d'As, près du camping à Lyon, parce qu'il avait la chance, il avait trouvé un groupe vraiment folk français qui s'appelait Malicorne. Alors il a fait ça sans penser qu'il attirerait autant de monde, parce que tous les gens qui attendaient sur Saint-Paul avec l'appétit de retrouver l'ambiance de Saint-Paul, il n'y avait pas, mais il y a eu Nyon, et il y a eu un appel d'air énorme. Et ce Nyon n'avait pas les craintes que les Valaisans. Donc ça a très bien. Ça a été le démarrage de Nyon. La pause qu'on a fait entre deux, ça a été le démarrage de Nyon.
Très bien. On va encore revenir quand même, pour que vous nous disiez quand même comment vous avez vécu les choses de l'intérieur, ces soirées. Est-ce qu'il y avait une ambiance très particulière? Est-ce qu'il y a eu quand même des problèmes peut-être de débordement
on a très bien géré le truc. C'est qu'au niveau de la drogue, je veux dire au niveau des drogues dures et tout, on avait un service d'ordre. On tolérait une consommation raisonnable dans des coins discrets de cannabis parce qu'on savait que ce n'était pas un risque majeur. Parce que dans la drogue, le problème, c'est plus le rapport de la personne avec le produit que le produit en soi. Hein. Et on était très bien organisés. On voulait aussi pas qu'il y ait des interventions de la police trop nombreuses parce qu'elle allait discréditer nos trucs. Pas qu'on nous colle l'image, oui, c'est un truc qui promeut la drogue. Donc on a fait une réussite parce qu'ils ont pratiquement pas... Quelques interpellations, ça s'est très bien passé.
Donc la police est quand même venue sur place.
Oui, mais ils étaient identifiés aussi, c'est-à-dire qu'on faisait le travail à leur place. Ils s'en sont rendus compte après. Nous, on s'occupait de réguler les trucs, de sortir les trafiquants, voire même de prévenir les jeunes. Attention, là, faites pas les cons parce que vous compromettez le festival. Parce que maintenant, voilà, soyez responsables, allez ailleurs si vous voulez. Bon, on peut pas être dans la moralisation puis l'interdit. On connaissait assez bien cette population. Donc, 74, le problème qui a dérangé, c'est simplement cet aspect de présence de mouvements alternatifs, la Ligue marxiste révolutionnaire, Silette Créton pour les femmes. Il y avait un stand qui parlait de l'avortement, on se posait la question du droit d'avortement dans certaines situations. Donc, ça a dérangé le Nouvelliste, André Luizier, tout le monde. Voilà.
Est-ce qu'il y a eu quand même un point négatif par rapport à Saint-Pain ou que...
Non, le seul point négatif, c'est qu'on a été un peu naïf, c'est qu'on a voulu faire gratuite et puis que, pas faire d'entrée. Moi, le dernier sapin au 76, ça s'est soldé par 15 000 francs de ma poche, voilà, c'était ça. Mais j'ai aucun regret. Hein. Non, moi je dis, c'est une réussite, ça a été à 90%. Culturel, social, c'était à 95%. Moi.
Pour aller dans le détail, donc vous m'avez dit tout à l'heure que en 75, le festival n'a pas eu lieu parce que vous aviez entendu que de toute façon vous n'auriez pas les autorisations.
Voilà. Ouais.
Comment ça s'est passé pour vous? Parce que vous étiez quand même en révolte en vous disant mais
non, on était en
tout
préparation.
S'était bien passé.
Non, on avait une stratégie de dire deux choses. On ne va pas remettre des stands en septembre, le prochain festival 76 qu'on prépare. Ils n'étaient pas au courant qu'on voulait en faire un. On va séparer deux choses, c'est-à-dire qu'on a fait le journal Saint-Paul en haut, qui était un journal qui parlait de la contre-culture, de la contestation, de l'alternative et tout. Les gens ne s'intéressaient pas trop. C'est le journal de Saint-Paul, mais de la culture, des groupes et tout. Et voilà. Et que nous, on mettrait en 76 l'accent sur la programmation culturelle et tout. Donc, sans stand de contestation, par contre, Le journal était à disposition, qui renvoyait vers des groupes, là, si vous voulez vous mobiliser contre le taureau, contre la Tipon, on avait tout un réseau qui était évoqué dedans. Et ce journal, il n'était pas présent qu'à Sapao, on le tirait, je ne sais plus à quelle fréquence, mais pendant l'année. Hein. Voilà, il y avait l'annonce du projet du festival et trucs. Et la commune de Saxon n'a pas vu venir en 76 qu'on allait faire une demande. En fait, on n'a pas eu une autorisation, on a eu la complicité du président à l'époque, Carrier, qui a gardé une lettre dans sa poche où on avait fait une demande dans le délai. On savait qu'après 10 jours, si la commune ne répond pas, tacitement c'est accordé, il ne peut plus rien faire. Et lui, il était complice par une stratégie qu'on a eue, pas malhonnête, mais je veux dire, valaisanne, intelligente. Quand il a présenté ça à l'Assemblée communale, les délais étaient dépassés 3-4 jours, et nous on savait, puis le lendemain on a convoqué la presse pour annoncer la mise sur pied du festival. Mais on avait fait un dossier, nickel. Mais on les avait aussi dans le dossier dire, voilà, on va renoncer pour cette polémique, on ne veut pas mettre en cause la première vocation, elle est culturelle. On a un journal qui évoque les alternatives de vie, peut-être positivement, pas critique contre la société, mais plutôt en termes de promouvoir des idées nouvelles, peut-être, voilà.
Qu'est-ce que ça vous a apporté à vous? Qu'avez-vous appris au travers de ce festival?
Ben, l'envie de continuer. L'envie de continuer parce qu'on savait qu'on avait on était légitimé par notre vision du monde, nos préoccupations, nos priorités. Et faut savoir que moi, étant donné, j'étais marié avec une femme hollandaise, j'étais pas sous l'influence, disons que politique, familiale, d'une famille valaisanne, donc c'était les Hollandais, des gens beaucoup plus ouverts, beaucoup de. Même pour la prise en charge de la drogue, j'avais quelques années d'avance sur les autres. Ben, j'étais au courant comment ils travaillaient en Hollande à ce niveau-là. Alors voilà, ça a été quelque chose de positif. On n'a pas pu continuer parce que là, ils nous ont voulu, ils nous ont pas permis d'aller plus loin. On savait qu'ils allaient nous bloquer. Et
Donc
c'est là. Pardon?
la commune.
La commune, tout à fait. Oui, mais il y avait une cabale valaisanne. Hein, les partis, je veux dire, conservateurs valaisans, ils ne voulaient pas de ces jeux, etc. Tout. En même temps, il y a Econ qui était un peu plus loin, qui arrivait là, qui a aussi un peu des problèmes, des chamboulements sur l'orientation de l'Église catholique avec le Vatican II, je ne sais plus comment on appelait ça, voilà.
Est-ce qu'il y a des gens qui vous en voulaient carrément, qui vous
Non, non.
ont
Non, moi je dirais
écrit une
que on
lettre,
avait.
peut-être
Non, non,
d'insultes,
non.
ou dans la rue, des remarques très
Non, non, il n'y avait pas de
désobligeantes,
ça,
ou...
non. On nous regardait un peu, voilà, ces jeux des chevelus et tout. Voilà, on n'a pas été provocateurs, on n'a pas été. Bon, les jeunes à cheveux longs, forcément, ils étaient des drogués, des trucs, il fallait se battre. Moi j'étais un éducateur à cheveux longs, premier éducateur de rue, certainement. On n'appelait pas ça éducateur de rue, mais en fait j'étais payé par l'État, j'allais me promener dans les bistrots, voir des jeunes, créer alliance avec eux pour être à l'écoute et puis au bon moment arriver à les soutenir, à les entraîner, à leur donner de l'aide et puis à les raisonner peut-être, voilà.
Henri Follinier, depuis que vous avez pris votre retraite officielle il y a environ 5 ans, vous êtes resté très actif. Vous coordonnez en effet de nombreuses activités regroupées sous le nom Réseau Magie Verte. On va voir ensemble quels en sont les différents pans, les différents secteurs. Il y a tout d'abord un volet agricole.
Oui, alors le réseau Magie Verte, parlons des espaces Magie Verte, qui est l'ensemble du lieu avec des caractéristiques, et avec une partie qui est complètement en zone agricole, une autre qui est en zone habitat, 1000 mètres carrés en zone d'habitat. Il a fallu différencier ça pour des raisons légales, d'autorisation et tout. La partie agricole, elle se veut d'être éco-agricole, elle est gérée par Nicolas Loretan maintenant. Et là, on a créé un arboretum, c'est-à-dire la réimplantation de variétés indigènes de pommes pour permettre la reproduction et tout. Donc ce n'est pas la production quantitative, c'est le maintien de ça. Ensuite, sur cette même zone-là, avec une fondation du Ricoeur qui se résume en 3 lettres majuscules, SVO, SWO, on fait par exemple des cultures de varier 7 variétés de seigle. Non pas dans le but de faire des kilos de farine, mais de reproduire les graines, maintien des variétés et tout. Et avec ça, on fait ça avec une école à Ventaune qui s'appelle l'école Mandala. C'est pas une école officielle, c'est une école privée. Ça permet d'initier et puis de permettre aux enfants de rentrer en contact avec la nature, des savoir-faire et tout. Et on va développer ce projet encore pour permettre que des visiteurs, des gens qui viennent pour des raisons culturelles et autres, conviviales dans une autre partie de la propriété, ben, ils puissent voir des modèles de culture. C'est-à-dire, on va faire quelques mètres carrés de permaculture avec telle ou telle technique de culture et tel produit, puis quelques mètres à côté d'eux. Voilà, ça vient des modèles pour dire, voilà, ben ça, ce type de culture existe à Fuilly ou dans l'Haut-Valais, le seigle, le safran et tout. Ça permettrait à des écoles, des visiteurs, du tourisme, de faire un passage ici didactique et de découvrir, de consommer des produits du terroir, de partir avec des adresses des producteurs et de participer à certains événements ici. Événements qui seront le fruit de ce qu'on va parler peut-être après, mais le magiculture, les artistes en résidence.
Justement, il y a ce volet culturel,
Ouais.
parlez-nous-en.
Ouais.
Donc, c'est des artistes qui viennent ici pour quelque temps, qui peuvent bénéficier déjà d'un beau lieu un peu retiré,
Ouais.
d'un certain matériel.
Oui. Ça s'est progressivement installé, presque maintenant professionnalisé. Nous, on a eu la chance d'un. Je prends l'exemple, on m'a confié un groupe de sept musiciens africains que je ne connaissais pas du tout, un brass band. Il s'avérait que c'était un des meilleurs groupes d'Afrique, des brass bands, qui ont eu le prix du meilleur brass band d'Afrique en 2015, un deuxième prix en 2017. Des gens qui jouent devant 80 000 personnes au Montreux Jazz Festival ou à Nyon, puis qui sont ici pendant des semaines, comme à la maison, et qui créent. Et ils ont créé ici un disque qui était une commande non commerciale, c'est de. Un disque qui a été fait pour rendre hommage aux Africains d'avoir créé le jazz à la Nouvelle-Orléans. Et c'est pas n'importe quoi, et on a profité de l'église des Jésuites à Sion pour faire ça. C'est un prodige, je veux dire, historique de la musique, ce qu'on a fait là. Donc, ces gens connaissent des gens moins connus, mais jeunes, avec lesquels je monte la formule Magic Orchestra, c'est-à-dire Magic Orchestra, c'est une frégate dans laquelle c'est les Gambais, les Africains qui sont là, et là viennent faire un bout de voyage des musiciens locaux de fanfare ou de moderne avec l'été pour faire des versions musicales nouvelles, revisitées à la couleur avec l'esprit africain. Voilà, donc il y a un forêt. Donc ici, les équipements permettent de travailler ouvert, d'être tranquille et tout, dans un lieu inspirant. Ensuite, on a une scène qui est proche de la maison, assez grande scène, où on a une capacité d'accueillir une centaine de personnes, qui permet, quand le disque est abouti, la création est aboutie, même si le disque n'est pas sur le marché, à chaud, de faire un concert avec leurs invités, nous les membres de l'association, une vidéo, parce qu'après, ça leur permet d'envoyer une vidéo, pas commerciale, c'est une vidéo de promotion pour être engagé. Parce qu'une musique suffit plus. Un programmateur, il va voir qu'est-ce que ça donne visuellement un groupe. Alors, comme ils se tiennent, la coupe qu'ils ont, la présence, voilà. Donc, ils ont tout le bagage en main, hein, pour ça, ici. Et là, on collabore aussi avec le studio Dimension 5 au Mayen de Sion, avec Gilles Huissot, avec Lionel Darbelay, technicien du son et tout, qui eux sont des professionnels. Voilà. Et c'est avec ces mêmes professionnels qu'on est dans la partie dans l'aventure d'un projet qui est un film en ce moment. Voilà.
Donc vous avez presque constamment des musiciens qui viennent chez
Oui,
vous, on pourrait dire.
ça se relaye, ouais.
Afin d'illustrer ce qui vient d'être évoqué, je vous propose d'écouter le témoignage d'Aïda, une musicienne genevoise. Aïda, on est ici chez Henri Follonier. Pour quelle raison est-ce que vous passez quelque temps ici?
Alors en fait, donc moi je suis percussionniste, je travaille sur Genève. Et puis, je cherchais un endroit pour pouvoir composer et répéter de la musique et partir un petit peu en nature. Et en fait, j'ai demandé à un ami qui est passé ici cet été, donc l'été 2020, avec un groupe, et qui m'a dit, mais va là-bas, va à Magiculture, va rencontrer Henri, tu verras, c'est génial. Et j'ai envoyé un message à Henri en lui disant, voilà, est-ce que c'est disponible? Est-ce que je peux venir? Donc c'était en février, il y a 2 mois. Est-ce que je peux venir? Voilà, je fais telle chose. Il m'a tout de suite répondu bras ouverts que oui, je pouvais venir, qu'il n'y avait aucun problème.
Et comment vous vous sentez accueilli ici? Comment ça se passe en général?
En fait, c'est vraiment assez exceptionnel au niveau de l'accueil. Il y a une espèce d'énergie incroyable d'amour qui se dégage et du lieu au niveau nature, du chalet et en la personne d'Henri et Chantal qui accueillent ici tout type de personnes en fait, des musiciens mais aussi plein d'habitants de la région, des voisins. Et c'est assez incroyable l'ouverture et le cœur qu'on peut trouver ici et c'est très très inspirant.
Je vous propose maintenant d'entamer la dernière ligne droite de cette interview. En voiture, s'il vous plaît.
Et puis, bien sûr, j'imagine que vous continuez de jouer vous-même de la musique.
Ouais, je gratouille encore pour autant que mon audition me permet encore d'entendre ce que je joue. Mais je suis en train de finaliser la musique du film qui est basé sur l'histoire que j'ai écrite. Cette histoire, elle s'inspire des gens existants, des artistes, où j'ai fait un fil conducteur d'une histoire humaine, d'événements drôles, moins drôles, etc. C'est une fiction, on pourrait dire, poétique, mais le sens de ce film, c'est, dans le dernier morceau final, on comprend tout le sens de l'histoire, c'est « Musique, tu as un parfum pour l'âme ». C'est un hommage à la musique, comme guérisseuse, comme qui traverse les guerres, les gens, qui est la religion des religions, qui permet, voilà.
Alors, est-ce que c'est un film en projet ou le tournage a déjà commencé?
Ah non, on a fait tous les documents déjà, on est dans la recherche de fonds maintenant, on a rempli toutes les exigences, les documents de calcul, de financement, du coût au niveau fédéral. Alors, c'est comme 50 feuilles d'impôt, hein, je peux vous dire, quand c'est pas donné. Voilà.
Donc vous vous êtes lancé dans une nouvelle activité, l'écriture d'un
film. Je ne me suis pas lancé, on m'a poussé, c'est des salauds qui m'ont dit « Ton histoire, elle est trop bien, il faut faire quelque chose ». Je me suis dit « J'aurais dû fermer ma gueule ». Et puis voilà, là, je suis passionné, il ne faut pas me pousser et m'allumer parce que je ne m'arrête pas. Alors maintenant, il n'y a pas de manière de reculer, on ira jusqu'au bout.
Vous-même, vous serez acteur?
Ouais, par la force des choses, parce que... Il y a des rencontres qui sont faites avec une artiste qui s'appelle Clara Del Oro, dans le film qui gardera son prénom, où elle m'a demandé d'être son père veut dire spirituel et artistique. J'ai dû accepter, je ne pouvais pas résister. On a créé des choses ensemble fantastiques. Puis dans le film, elle devient ma fille adoptée. Mais c'est la fille adoptée d'un Valaisan qui va en Argentine pour retrouver les Foloniers, sa famille, une fois, qui rencontre la maman qui est veuve. Il retourne pour finir, il revient avec la maman et la fille. Et elle aura un rôle à jouer dans le film.
Henri, vous auriez pu prendre une retraite plus pépère, on dira, moins active. Qu'est-ce qui vous pousse à continuer d'entreprendre?
Je pense que si j'avais été moins actif, je serais tombé malade, je serais vieux. Parce que j'ai 71 ans, les jeunes autour de moi, ils me disent « mais merci d'exister ». Bon, quand on voit la pêche que tu as, la passion que tu mets, l'engagement, ça nous pose question à nous-mêmes et puis ça nous donne l'espoir. Puis dans la vie, on peut faire un relais. Il y a comme un signal dangereux psychologique, psychophysique de la retraite. On est fatigué, on va arrêter et tout. Il ne faut pas couper la vie. La vie, elle est une, il ne faut jamais l'arrêter. Il faut la transformer. C'est comme la mort, c'est une métamorphose. Sinon, on peut être retraité, mais mort-vivant. En attendant, on porte des délais, on remplit un vide et tout. Moi, j'ai envie de mourir, si je peux, debout, passionné, pas à l'arrêt et tout. Voilà.
C'est ainsi que se termine ce reportage. Il me reste à remercier chaleureusement notre invité du jour, ainsi que vous tous, auditrices et auditeurs. À bientôt.